Oswald Spengler, L'homme et la technique, 1969. Explication rapide du texte. L'auteur du texte, Oswald Spengler, est très clairement un auteur technophobe. Technophobe, ça signifie celui qui a peur, qui se méfie de la technique. Si j'ai choisi ce texte technophobe-là, c'est en raison de la date de parution du livre L'homme et la technique. En effet, il s'agit d'un ouvrage de 1969 et il développe une thèse qui, aujourd'hui, apparaît très commune. Je pense qu'aucun élève de 2023 n'est vraiment étonné par la thèse développée dans ce texte, qu'on entend assez régulièrement, qui s'appuie sur des exemples, qui sont des exemples assez classiques. Et pourtant, à l'époque, ce genre de texte et ce genre de position est tout sauf commune. On pourra dire qu'il s'agit là du texte d'un précurseur de l'écologie politique, et qu'à l'époque, on ne prenait pas très au sérieux ce genre de position écologiste. Si on devait définir le problème, la thèse et les étapes de l'argumentation de ce texte, on pourrait tout d'abord définir comme problème le sujet de base qui vous est proposé, à savoir la technique est-elle l'ennemi de la nature? C'est vraiment exactement à cette question que le texte répond. Ensuite, la thèse est évidemment que la technique est bien l'ennemi de la nature. Elle est ici définie comme dangereuse et même comme toxique. L'une des citations que vous pouvez souligner et qui représente vraiment très très bien cette thèse, c'est le début du deuxième paragraphe. Un monde artificiel pénètre le monde naturel et l'empoisonne. L'emploi ici du mot empoisonné montre bien que la technique est considérée comme toxique pour la nature. C'est un terme très fort. Et au niveau des étapes de l'argumentation, on peut diviser en deux temps qui correspondent aux deux paragraphes. Dans le premier paragraphe, l'auteur s'appuie sur des exemples pour montrer les effets néfastes, dangereux et destructeur de la technique, de ce qu'il appelle la mécanisation du monde sur la nature. Et dans le deuxième paragraphe, l'auteur, après avoir exprimé la thèse du texte, met en évidence un nouvel effet pervers de la technique et particulièrement un effet très pervers puisqu'il s'agit d'une forme de retournement de situation où la technique devient son propre ennemi, où elle devient en fait contre-productive. Et la conséquence de ce retournement de situation, c'est que finalement, les êtres humains commencent à modifier leur rapport à la nature et leur rapport à la technique pour se rapprocher de la nature contre la technique. Je vais à présent analyser un petit peu plus en détail la première partie du texte et donc les exemples utilisés par l'auteur pour mettre en évidence les effets néfastes de la technique sur la nature. Spengler utilise trois exemples. Le premier exemple, c'est la déforestation. Le deuxième exemple, c'est le changement climatique. Et le troisième exemple, c'est l'extermination de races humaines. Et ce qui est intéressant avec le choix de ces trois exemples, c'est qu'ils sont chacun représentatifs d'une victime différente de la technique. La première victime, c'est un écosystème, la forêt. Il s'agit d'un écosystème très important puisque la forêt abrite une très grande diversité de faune et de flore, donc une grande diversité biologique. Mais la forêt est un écosystème extrêmement important pour l'homme, même s'il n'y habite pas, il a besoin de la forêt pour éponger le CO2 qu'il émet. Et la forêt pompe le CO2 pour le transformer en oxygène. C'est pour ça qu'on dit souvent que l'Amazonie est le poumon de la planète. Cela nous amène au deuxième exemple, l'exemple du changement climatique. Ici, la victime de la mécanisation du monde, ce n'est plus un écosystème, un endroit localisé de la planète, mais c'est la planète dans son ensemble. Alors c'est vraiment intéressant que Spengler en 1969 parle déjà des atteintes sur le climat, puisque À l'époque, les données n'étaient pas aussi nombreuses, aussi scientifiquement établies qu'aujourd'hui et que depuis les années 90. En fait, en réalité, il commence à parler de ce que le grand public ne découvrira réellement que dans les années 90, puisque c'est dans les années 90 qu'on commence à réellement se préoccuper politiquement des changements liés au climat avec le sommet de Rio, notamment en 1992. Enfin, la troisième victime de la mécanisation du monde, c'est l'être humain lui-même. En effet, si on reprend le cas de l'Amazonie, la forêt n'est pas simplement le lieu de vie de dizaines de milliers d'espèces très variées, mais aussi le lieu de vie de certaines tribus humaines dont certaines n'ont jamais été en contact avec d'autres tribus et encore moins la société brésilienne de type, en tout cas très occidentalisée. D'ailleurs, dans la série d'exemples que je vous ai choisi et que vous retrouvez sur le site Au fil de l'eau, j'ai choisi un article et une vidéo qui présentent deux tribus amazoniennes, les Awa, qui correspond vraiment à une tribu qui n'a jamais été en contact avec d'autres et qui très clairement ne va pas tarder à disparaître, et les Nambikwara. Les Nambikwara, c'est une tribu très intéressante. Elle a été étudiée par le grand ethnologue français Claude Lévi-Strauss au début du XXe siècle, milieu du XXe siècle. Et depuis, eh bien, c'est une tribu qui a été très fortement en contact avec la société brésilienne, et notamment dans le reportage que je vous ai proposé dans la série sur l'agriculture et qui montre pourquoi et comment l'Amazonie est rasée petit à petit, eh bien, on voit des représentants de cette tribu qui n'ont plus rien de, entre guillemets, sauvage et qui ont en grande partie perdu les spécificités de leur culture, qui se sont très fortement occidentalisées et qui contribuent d'ailleurs, en travaillant avec l'agro-business, qui contribue à la déforestation de leurs propres réserves en Amazonie. Donc on peut dire que physiquement les Nambikwara n'ont pas disparu et ne sont d'ailleurs pas menacés, mais au final leur culture a petit à petit été effacée. C'est pour cela et c'est en cela qu'il faut comprendre cette idée que la mécanisation du monde, elle contribue à la destruction de cultures humaines et elle nuit à la diversité de ces cultures. On va maintenant passer au deuxième paragraphe et avant de voir en quoi la technique est en réalité aussi sa propre victime, nous allons un petit peu nous attarder sur cette citation que je vous avais demandé de souligner au début. Un monde artificiel pénètre le monde naturel et l'empoisonne. Je vous renvoie ici au premier article que je vous ai mis dans la série des exemples que je trouvais intéressant parce qu'il montre que ce qu'on pourrait appeler la technomasse, c'est-à-dire la masse des objets fabriqués par l'être humain, on estime aujourd'hui, les scientifiques estiment aujourd'hui que la masse de ces objets est supérieure à la biomasse, c'est-à-dire la masse de tous les êtres vivants dont nous faisons partie, hein, d'une certaine manière. Mais en gros, nous avons produit un ensemble de choses qui aujourd'hui prennent plus de place et pèsent plus lourd que ce que la nature a créé en termes de diversité des êtres vivants. Il me semble que c'est une donnée scientifique très intéressante quand on essaye de réfléchir à l'impact de la technique sur la nature et la compétition qu'il peut y avoir entre elles. Cependant, cette hypertrophie de la technique, c'est-à-dire cette omniprésence, ce développement envahissant de la technique, au final apparaît contre-productif. Cet adjectif contre-productif, on l'utilise quand on veut montrer que quelque chose, et notamment une technique qu'on utilise dans un certain but, au final va dans le sens opposé du but qu'on s'était fixé. Petit exemple rapide dans le domaine de l'éducation, quand on écrit une appréciation sur une copie où on essaye de montrer quels sont les défauts que vous pouvez corriger et on vous l'écrit pour que justement vous le corrigiez, eh bien parfois ça peut avoir sur les élèves un effet inverse, c'est-à-dire que ils vont se démobiliser, se décourager, plutôt que de prendre le taureau par les cornes et d'essayer de travailler pour corriger leurs défauts. Et par conséquent, ben, quand on est enseignant, parfois on se demande s'il ne vaut mieux pas ne rien mettre ou mettre une appréciation vague plutôt que de préciser ce qui va pas pour ne pas démoraliser l'élève. Bref, donc je pense que vous voyez ce que signifie contre-productif et là ça correspond exactement à ce que nous dit Spengler. Je cite le texte, la machine finit par aller à l'encontre du but proposé. Et l'exemple choisi que vous connaissez tous, je pense d'ailleurs, c'est celui des embouteillages où on est bloqué et où la voiture qui est censée nous faire avancer bien plus vite qu'à pied, au final, nous fait avancer moins vite. Donc la voiture, ça fonctionne, ça va dans le sens du but premier, tant qu'il n'y en a pas trop. Et c'est ça en fait le problème. Le problème, c'est l'hypertrophie, c'est le développement non maîtrisé, c'est l'augmentation du nombre d'objets techniques qui, au final, devient, eh bien, une source de blocage, d'embouteillage technique généralisé. Dans le domaine de la nature, on utilise le terme prolifération. De prolifération de bactéries, de microbes par exemple, eh bien là c'est exactement ce qui se passe, mais du point de vue de la technique. Et la prolifération, eh bien ça a des conséquences très négatives, ça rend malade, ça nuit à l'équilibre. Et on en arrive à la conclusion entre guillemets du texte, les conséquences éthiques et politiques de ces constats. Dans cette dernière partie du texte, en effet, Spengler prône le retour au naturel, à ce qu'il appelle une forme de vie pacifique, c'est-à-dire une paix retrouvée avec la nature, en abandonnant cette forme de lutte un peu constante que constitue le progrès technique, lutte constante contre la nature. Aujourd'hui, on emploierait sûrement le terme sobriété. C'est ce que Spengler prône ici, une forme d'éthique de la sobriété technologique, c'est-à-dire une utilisation très raisonnée et plutôt minimaliste des techniques afin d'éviter cette prolifération technique nuisible et pour la nature et pour l'être humain lui-même. Parce qu'au final, en détruisant la nature, en étant nuisible à la nature, l'être humain détériore ce dont il dépend. Et donc, il est son propre ennemi.